Vous écoutez Fréquence Mystère, il est 11h et c'est l'heure de notre émission spéciale correspondance de Manosque. Et j'ai le plaisir de retrouver François Malabave avec ses invités. Bonjour François.
Bonjour Emeline, bonjour à tous. Au sommaire de cette émission, plusieurs choses et plusieurs invités, Emeline l'a dit à l'instant, on aura le plaisir d'accueillir des écrivains en résidence, actuels et passés. Sylvain Prudhomme et Pierre Ducrozet sont nos invités. Nous accueillerons aussi Jacques Ménie, car nous sommes à Manosque et nous parlerons évidemment de Jean Giono. Et puis nous entendrons aussi des personnes importantes sur la place de Manosque, puisqu'elles sont bibliothécaires à la médiathèque d'Herbès, Nathanaël Coriol et Sylvie Peson, qui sont actuellement en pleine activité, nous ont accordé une interview, on écoutera ça dans un instant, et puis nous entendrons aussi, bien sûr, comme tous les jours, le directeur des correspondances, Olivier Chaudançon. Bonne émission, à tout de suite. Les correspondances 2015, c'est parti hier à 17h, l'inauguration officielle des correspondances avec un vent à décoiffer les chevelus a permis de faire une opération inauguration assez particulière et très sympathique comme d'habitude avec des premiers entretiens, des spectacles, etc. Pendant 4 jours, Manosque vibre au son des correspondances et aux lettres des correspondances. Nous en parlons sur notre antenne tous les jours à 11h et je vous propose d'écouter le directeur des correspondances, notre ami Olivier Chaudançon, évoquait le programme de ce jour, de ce jeudi 25 septembre. 24 septembre. Olivier Chaudançon, les correspondances, c'est parti.
C'est totalement parti, puisque à partir de 15h, on aura le choix entre rencontrer Carole Martinez, qui nous emmène à nouveau dans son imaginaire et l'époque médiévale, la lettre des lycéens, des lycéens qui ont participé à un atelier d'écriture, qui livreront leurs écrits, ou alors la sieste littéraire, qui réunit une très belle équipe autour de Bastien Lallemand, Albin de la Simone, Camélia Jordana, Maëva Lebert, ainsi que des écrivains du festival. Une sieste qui se répétera d'ailleurs tous les jours à 15h. Un peu plus tard dans l'après-midi, Agnès de Sarthe, ou alors en dialogue, Jeanne Benhamer et Fanny Carello, qui est la lauréate du prix Orange 2015. Et puis l'après-midi se terminera avec là encore 3 choix possibles. Une rencontre avec l'écrivain anglais Jonathan Coe. Une sorte de cabaret littéraire qui réunit l'écrivain Nicolas Ray et le chanteur Mathieu Saïkali. Ça vaut le détour, c'est drôle, c'est impertinent. Nicolas Ray a collectionné des textes, comme il dit, des textes qui le touchent particulièrement, qui ont tous trait à l'amour. Il les lit et en écho à ses moments de lecture, Mathieu Saïkali fait des reprises de chansons que lui aussi collectionne et donc viendront se télescoper des moments avec Céline, avec Philippe Jaénada, avec Robert McCallum Wilson et puis des reprises qui iront de Nirvana à Polnareff. Enfin, je ne dis pas plus, c'est un très beau moment. Et également, à la même heure, Gwenaël Aubry, qui a fait une vraie création musicale que nous présentons au Conservatoire, qui est un des nouveaux lieux du festival, une création autour de la poétesse Sylvia Plath. Ce sera de la lecture, de la musique, avec là encore Bastien Lallemand, Théo Acola. C'est un très beau spectacle littéraire. Et puis en soirée, au Théâtre Jean Le Bleu, à 21h, la très belle comédienne Rachida Brakni viendra lire un texte de Annie Ernaux qui s'appelle « L'autre fille ». Et puis nous terminons ce jour-là avec Barbara Carlotti, bien connue du public manosquin, pour son laboratoire onirique auquel elle a convié l'écrivain Jonathan Coe, parce que Jonathan Coe avait écrit il y a quelques années « La maison du sommeil » et que ce livre a été le point de départ de l'album en cours d'écriture de Barbara Carlotti.
Il y a également des moments d'apéritif avec nos amis du Poivre d'Âne sur la place de l'Hôtel de Ville, et puis le potager moderne après les spectacles.
Oui, chaque jour, pour faire la transition entre les rencontres de journée et puis la soirée qui s'ouvre, on se retrouve tous à 19h devant la librairie Le Poivre d'Âne pour boire un verre, rencontrer les auteurs, rencontrer les artistes invités du festival. Et puis dans la soirée, le potager moderne investit le bar des correspondances et vous permettre de boire un verre, manger un morceau, prolonger la soirée, écouter un peu de musique, rencontrer les artistes qui sont intervenus le jour.
Retour en plateau sur l'émission des correspondances après Olivier Chaudançon, le directeur des correspondances qui évoquait le programme de cette journée. J'ai le plaisir d'accueillir deux écrivains pour qui le mot résidence veut dire quelque chose. Il s'agit de Pierre Ducrozet qui est un jeune écrivain et qui débute une résidence sur Manosque. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Nous allons parler littérature évidemment, nous allons parler rencontres et nous allons parler de ce festival que vous connaissiez un petit peu. Parfait. Et de ce que vous attendez des correspondances et de la résidence que vous faites avec votre prédécesseur justement qu'on connaît beaucoup mieux. Il s'agit de Sylvain Prudhomme. Bonjour Sylvain.
Bonjour François.
Quel plaisir de vous recevoir une énième fois ici sur notre antenne. C'est toujours un plaisir. Quelqu'un qui nous a fait découvrir le Super Mama Jumbo, qui écrit aussi bien pour Bailly que pour des grands. Enfin bref, un écrivain qu'on apprécie et qui a dû vivre une année particulière ici en résidence à Manosque.
Oui, une année très riche de rencontres, de belles expériences. C'est vrai, aussi bien avec les membres du comité de lecture. Il y a eu beaucoup de moments avec eux. Il y a eu des ateliers d'écriture avec plusieurs d'entre eux et d'autres gens aussi. C'était des ateliers ouverts à tout le monde à la médiathèque. Plusieurs matinées d'affilée avec le même groupe. On a ensemble écrit des textes qui ont été rassemblés dans un petit recueil qui s'appelle Journal de V. Enfin voilà, et puis je suis allé dans beaucoup d'établissements aussi.
Des établissements scolaires.
Beaucoup d'établissements scolaires.
Parce qu'il y a des établissements pénitentiaires. Dans quel lycée vous avez été, Sylvain?
Alors il y a eu tout un projet qui me tenait beaucoup à cœur avec le lycée Martin Bray.
Lycée
des métiers, Martin Bray, là qui se concrétisera, enfin qui s'achèvera demain soir à 18h avec un il y a alors les élèves de Martin Bray avaient déjà font chaque année maintenant ils inaugurent les apéros littéraires en fait par un buffet qu'ils servent au
donc c'est la section hôtellerie.
Voilà. Moi, c'est avec eux aussi que j'ai travaillé. Et on s'est d'abord rencontrés autour de livres moi, que j'avais écrits. Et puis après, en fait, on a eu envie de prolonger ça en entremêlant plus étroitement littérature et cuisine. Et donc là, il y aura demain, en fait, ils liront des extraits de textes. Des textes, il y a du Duras, du Ponge, des textes, des classiques, enfin, des classiques du 20e. Et qui, ça sera suivi chaque fois de réponses culinaires qu'ils ont préparées eux-mêmes et qu'ils serviront. Donc il y aura, voilà, les auditeurs, ils écouteront les lectures et en même temps ils goûteront le. Voilà, c'était des façons de passer des beaux moments ensemble.
C'est une bonne cuisine en plus, hein. C'est une belle chose. et ce sont des jeunes de quel âge et de quelle section?
Ils sont en terminale, ceux-là.
Ils sont en terminale, donc.
Et beaucoup en cuisine, service. C'est surtout avec cela, étant donné le thème.
Ça tombe bien.
Sinon, moi, je suis allé aussi à l'école internationale où il y a eu beaucoup d'ateliers, à l'école primaire de Mannes aussi où il y a eu un beau projet.
Été sur Vinon aussi peut-être.
Vinon. Alors là, après, il y avait tout un ensemble de rencontres sur le territoire. Enfin voilà, donc. En médiathèque, dans des librairies.
Qu'est-ce qu'un écrivain retient de ce type de rencontre? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est une corvée? Comment on ressent ça?
Il y a vraiment quelque chose de on épuise beaucoup d'énergie, moi je trouve, dans ces moments d'échanges avec des gens qui petit à petit on commence à bien connaître, avec qui on se noue une amitié un peu. Et donc c'est vrai que maintenant là quand il y a une familiarité quand même
avec Sylvain Prudhomme quoi.
en tout cas il y a oui, je sais pas, c'est beau aussi je trouve de voir tous les gens qui se battent dans un territoire pour partager des moments comme ça, enfin pour faire lire des livres. Enfin, il y a dans tous les comités de lecture des différentes agréou aussi. Enfin, il y a c'est beau de voir tous les acteurs de ce qui maillent un territoire comme ça pour pour essayer que voilà, que on lit tous.
Ça n'est qu'une image, mais vous êtes passé de l'autre côté de la barrière, en fait.
En tout cas, oui, tout à fait.
D'aller voir un peu comment apprécient votre littérature, les lecteurs. Et vous avez aussi parlé de vos romans. Je me souviens d'une émission ici même où vous avez parlé de vos lectures, vos propres lectures et vos inspirations. Mais vous avez aussi décortiqué vos romans avec des lecteurs qui avaient lu La Avedi Bailly ou Les Grands.
Oui, parfois. Enfin, on essayait d'alterner un peu les formules. Enfin, parfois, c'était autour de... Il y a eu un moment où au comité de Gréou, par exemple, je devais faire un choix de montrer, enfin là, partager des livres, faire une sorte de choix de livres de littérature africaine qui est finalement moins connu. Et donc là, on avait décidé d'axer la séance là-dessus. Il y a des moments où effectivement, j'ai davantage parlé de mes livres. C'était très varié. Et après, je sais pas ce que ça, qu'est-ce que ça nourrit exactement en soi. Je pense que ça jette plein de pierres, plein de racines, enfin de choses qui après vont peut-être germer d'une façon que je sais pas encore. Je sais pas, par exemple, j'ai rencontré aussi Jean Lautré, qui est une grande figure du coin.
C'est le plasticien, voilà, qui réalise les magnifiques écritoires des correspondances, voilà. Et c'est un type adorable.
Ouais, je suis allé chez lui, donc j'ai passé des belles soirées à Vacher, où il habite dans un endroit assez perdu, en dehors du village de Vacher, un peu sur les hauteurs. Et tout ça, c'est des moments de... Ouais, quand même, un peu de d'émerveillement qui je pense, vont faire leur chemin en moi et peut-être réapparaîtront d'une façon que je peux pas trop prévoir. Je préfère pas trop. Je crois qu'il faut laisser faire le
vivre l'instant présent. Voilà. Et puis après, vous verrez comment ça se passe. Dans le festival lui-même des correspondances, c'est quand même aussi un moment particulier où on croise des éditeurs, des comédiens, des artistes et bien sûr des écrivains. C'est un moment clé, un moment fort pour vous, professionnellement parlant aussi.
Ouais, absolument, et aussi même de rencontres d'auteurs, de découvertes de textes qu'on connaissait pas forcément. Il y a un choix, il y a une proposition de tout un panel d'auteurs très très quand même qui sont choisis avec beaucoup de soin, et c'est assez merveilleux de chaque année. Moi je toutes les fois que je suis venu, ce sera la troisième fois que je viens, je repars avec des livres que j'aurais peut-être pas acheté si jamais j'étais pas venu là, et ça c'est assez merveilleux d'entendre des gens, d'avoir des coups de foudre quoi pour des œuvres qu'on
ouais, voilà, on peut avoir des déceptions aussi. Ça peut arriver.
Alors oui, à ce moment-là, il y a tellement de choses qui se passent au même moment qu'on. Je, sans hésiter, je vais sur une place voisine écouter autre chose qui me.
On a les colonnes profit et perte, quoi. Si j'ai bien compris. Merci Sylvain. On va parler tout à l'heure de musique aussi, bien sûr, puisque il y a quand même un événement qui va clôturer cette édition de 2015. À nos côtés, votre successeur, et j'ai grand plaisir à l'accueillir, mais je ne le connais pas, donc cette résidence nous permettra de nous connaître. Voilà. Pierre Ducrozet, vous venez de Lyon, c'est ça ?
Oui, je suis né à Lyon. Oui.
Et vous avez déjà écrit plusieurs livres.
C'est mon troisième roman là, qui est sorti ce printemps.
Quand on vous a appelé pour vous dire, est-ce que vous acceptez une résidence aux correspondances de Manos ? Quelle a été votre réaction ?
J'ai dit oui. Non, j'ai tout de suite. C'était un rêve depuis quelques années d'être invité ici. Donc j'essayais de sortir un livre au maximum pour pouvoir être invité. Non, je blague à moitié. J'avais vraiment envie que j'étais venu en tant que spectateur il y a 5 ans. Et donc quand on m'a appelé pour me dire que non seulement j'étais invité, mais en plus en résidence, j'étais ravi. Non seulement parce que j'ai très envie de faire des ateliers, des rencontres. J'en fais tout au long de l'année, à droite à gauche, en France et ailleurs. Donc ça, c'est une chose que j'aime. J'enseigne aussi. J'ai enseigné, j'aime le contact avec les plus jeunes ou plus grands. Et puis pour pouvoir travailler ici, écrire et être au calme.
Est-ce qu'il n'y a pas un dilemme ? Alors là, je me tourne vers Sylvain aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un dilemme entre le fait que vous êtes en résidence, donc pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous concentrer, écrire quelque chose, si ce n'est un livre, et puis le fait effectivement d'être à la croisée de plusieurs dynamiques et d'aller vers les gens ? Comment ça se passe, Sylvain, vous qui avez vécu ça ? Comment vous arrivez à équilibrer ces...
Avant que Sylvain ne réponde, c'est un peu nos vies d'écrivains contemporains, constamment entre plein de dynamiques différentes. Donc là, plus ce sera plutôt une dynamique assez univoque de, on sera, va se concentrer autour de la littérature et il y aura des ateliers, etc. Mais c'est finalement différent du quotidien où on est obligé d'éclater pour des raisons financières ou autres entre nos activités. Hein.
Sylvain ?
Oui, c'est vrai que le moment de les temps de résidence sont des temps plutôt même de concentration ouais. Par rapport à peut-être à la vie de tous les jours où on est. Ouais. Enfin, moi dans mon cas par exemple j'ai des enfants et tout, donc c'est vrai que quand je venais là c'était des moments finalement où j'étais assez concentré aussi.
Des parenthèses ça. Agréables.
Ouais, enfin disons que effectivement il y a un tourbillon de la vie de tous les jours qui existe aussi en résidence, mais c'est un moment quand même assez concentré aussi et là en plus c'est vrai que dans la conception même qu'a les correspondances de cette résidence, ils tiennent beaucoup à ce qu'on ait du temps pour travailler aussi. Donc c'est de ce point de vue-là, c'est très équilibré entre les deux.
Et d'essayer de respecter des moments de singularité, puis en même temps de calme ouais. pour les auteurs, pour qu'ils puissent travailler. Vous savez qu'ici à Manosque, évidemment, il y a l'ombre tutélaire de Jean Giono, qui lui a travaillé, on va dire, 99,9%. Tout seul dans son bureau à écrire ses chefs-d'œuvre magnifiques et qui n'a rencontré, à mon sens, qu'une seule fois, on en parlera peut-être tout à l'heure avec Jacques Ménie, le président de l'association des Amis de Jean Giono, qu'une seule fois des lycéens, chose que vous faites, vous, de manière régulière et courante. Il a jamais animé d'atelier d'écriture, ça n'existait pas, je ne pense pas, en tout cas, à l'époque. Et donc, c'est vrai que l'écrivain du XXe siècle et celui du XXIe siècle, il y a peut-être une teneur un peu différente.
Oui. Déjà, il lit aussi en public. On le voit ici. C'est quand même ici que c'est en partie.
Ça, c'est un exercice difficile, ça.
Difficile et nouveau aussi. Donc, l'écrivain veut aussi aller porter son texte, aller rencontrer des gens dans la librairie et rencontrer des élèves, des étudiants. Ouais, ça, c'est une chose nouvelle, mais je trouve qu'elle est assez passionnante, quoi. Moi, c'est vraiment pas une. C'est vraiment une des choses qui m'intéresse vraiment, d'aller dans des lycées, d'aller dans des collèges, d'aller dans, cette année aussi à la faculté. Je vais aller un peu à Paris 8, qui a créé notamment un master de création littéraire. Et voilà, donc tout ça est vraiment passionnant. Moi, je ne changerai pas pour une vie monacale qui était aussi passionnante. Enfin, j'aimerais bien pouvoir être Flaubert et comme Giono, enfermé. Malheureusement, c'est difficile, on ne peut plus trop.
Et c'est vrai qu'on peut imaginer, nous qui le connaissons relativement bien, imaginer ce bonhomme tout d'un coup sur la place Saint-Sauveur ou place de l'Hôtel de Ville, discuter et puis faire de la lecture de ses œuvres, ce serait assez étonnant. J'ai souvenir quand même d'un certain Jonathan Little qui était assez réticent à l'exercice. Je ne sais pas si vous y étiez, messieurs. se trouver en face de 400 personnes qui buvaient vos paroles et alors qu'il était habitué plutôt à écrire ce pavé qu'est les Bienveillantes par exemple.
Vous aviez au moins eu la chance de le voir parce qu'il était
c'est la seule fois en public où il l'a fait, donc
il n'est même pas venu récupérer son prix Goncourt, donc oui. Il est resté à Barcelone.
On a eu cette chance à Manosque, mais il était vraiment très très gêné aux entournures de cet exercice. Nous a rejoint sur ce plateau, et c'est un ami de la radio, le président de l'association des Amis de Jean Genot. J'en parlais à l'instant, notre ami Jacques Ménie. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
On parlera avec vous de l'événement Giono. Il y a deux événements en fait dans les correspondances.
Pour une fois.
C'est une très bonne chose. Quel regard vous portez, vous qui avez l'habitude de vous frotter à des écrivains du XXe siècle
Non, pas du tout.
Giono, Gide, etc. Non, faites pas le modeste.
Du XXe mort.
Voilà.
Et j'ai pas le temps de lire les vivants.
Et justement, alors les vivants, ils sont là, ils sont parmi nous. Il y en a deux ici qui sont des auteurs talentueux. Les correspondances, c'est un espèce de creuset particulier où il y a des gens qui ont du talent, parfois de manière un peu inégale, mais on en profite de ça, nous.
Ah oui, absolument. Ben, c'est la grande exposition de la rentrée littéraire. C'est vrai. J'en parlais tout à l'heure en venant ici avec Michel, mon épouse que tu connais. Mais c'est vrai que c'est le coup de génie d'Olivier. Ça, c'est d'exposer à Manosque tous les talents de la rentrée littéraire ensemble. Le public peut vous parler, c'est pas seulement une signature, et sous des formes variées, que ce soit la lecture, l'entretien, donc ça rend la littérature présente et vivante. Ça, c'est une réussite, je crois, à cause de ça. Et ça, c'est vraiment, oui, c'est ça, pour moi, c'est ça, les correspondances. C'est la vie littéraire, à portée du lecteur. Et d'ailleurs, moi, ça me pose des problèmes d'organisation, parce que dans mon équipe, ils sont tous, ils m'ont dit, non, nous, on fait pas, là, je viens d'assurer une visite pour 10 visiteurs, parce que, ils m'ont dit, non, nous, on va voir les écrivains, on vient pas faire visiter la maison.
Première doléance qu'on va envoyer à Olivier Chaudenceau. C'est une bonne chose qu'on se retrouve en plus sur des terrains qu'on connaît, qui nous sont familiers, nous, manosquins, tout d'un coup, avec un Eddie Cadour, un Lama Bancou, et c'est un bonheur.
Ce qui est terrible, c'est que, la littérature d'aujourd'hui, je suis désolé de dire ça devant nos auteurs d'aujourd'hui, mais j'ai vraiment pas le temps, parce que comme j'écris toute l'année sur et autour de l'œuvre de Giono, là, par exemple, je prépare une communication pour Coloc en Espagne sur la Giono, lecteur des récits de la conquête espagnole. Mais en ce moment, je lis Christophe Colomb, Diaz del Castillo, Don Quichotte, des morceaux. Donc, c'est vrai que je suis en grande partie ma bibliothèque personnelle, qui est déjà très riche, c'est aussi la bibliothèque de Giono, parce que je suis obligé de lire ce qu'il a lu pour comprendre un certain nombre de choses qu'il a écrites. Alors, c'est évident qu'il y a des écrivains d'aujourd'hui que je lis. En général, ce sont ceux que j'invite aussi.
Forcément.
Si vous voulez être invité aux rencontres Giono, Eddie Cadour, par exemple, qui est un ami, mais il y a eu Edmund White, il y a eu Eric Vuillard, cette année, Michel Julien.
Il a fait d'ailleurs, Eric Vuillard. Oui. Il a fait les rencontres Giono en août et correspondances.
Oui.
Chapeau.
Non, ça c'est bien. Mais c'est un grand ami d'Evelyne Pravido aussi, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu une certaine époque où je dis pas que ça m'agaçait, mais enfin, je trouvais que c'était un peu exagéré, où finalement, Giono, qui est incontestablement, je veux dire, un des grands maîtres de la littérature française de tous les temps, mais du 20e, ça c'est sûr, disait, oui, c'est du passé, c'est ringard, presque, tu vois, c'est patrimonial, voilà. Et d'abord, je trouve que, c'est peut-être patrimonial, mais c'est formidablement vivant et actuel. Et parfois dans des aspects qu'on n'imaginait pas, comme le retour en force de la lettre aux paysans, par exemple, qui est devenu un modèle de la décroissance. Et aujourd'hui, quand on sort des livres de Giono, c'est ceux qu'on vend le plus. Un livre sur lequel tout le monde a craché pendant des décennies, quand même. Et y compris quand il est sorti, en 1938. Donc c'est patrimonial, mais c'est formidablement vivant. Et je suis content quand même que de temps en temps, dans les correspondances de Manosque, Giono ait une part assez importante. C'est vrai que ça, c'est lié à la double actualité, donc de mon édition de sa correspondance avec Gallimard, et de l'idée formidable d'Evelyne Pravido d'avoir voulu, à partir des archives que nous conservons au Paraïs, inventer cette fausse vente aux enchères où ce sont des écrivains, je ne sais pas si vous en êtes d'ailleurs, oui, qui vont monter les enchères en commentant et en donnant leur point de vue sur un certain nombre de pièces très très variées qui vont de la facture de tailleur jusqu'à un exemplaire annoté de Stendhal, du marteau de cordonnier du grand-père jusqu'à le chapeau, le cache-col et le manteau de Giono. Donc il y a tout. Il y a une trentaine de ces objets sélectionnés par Philippe Artière et sur lequel on va donc recueillir les enchères des écrivains invités à participer à cette vente et qui pourront parler aussi d'eux-mêmes, bien sûr. C'est pas bien sûr un commentaire savant sur les objets qu'on leur propose.
Et faire une liaison évidemment avec l'œuvre de Giono aussi. Jacques, nous parlerons avec Philippe Artière justement de cette démarche un petit peu particulière. Nous parlerons aussi avec vous tout à l'heure de la correspondance et de la parution de ces lettres à la NRF de Giono. Je vais me tourner quand même vers Sylvain Prudhomme avant de les laisser partir, nos deux jeunes écrivains et qui vont profiter des correspondances. Sylvain, vous faites surgir des personnages de votre roman Les Grands, dimanche soir. Comment ça s'est passé, le contact avec les musiciens du Super Mama Jumbo qui viendront jouer à Manosque?
Alors, c'est vrai qu'il y aura Malan Manet qui était le grand chanteur du Super Mama Jumbo. Et il se trouve qu'il vit aujourd'hui à Montreuil. Moi, je l'avais rencontré avant que le livre paraisse et il est un des personnages du livre. Il y a à peu près 30 ou 40 pages du livre dans lesquelles il apparaît.
et qui sont très inspirés d'un moment que j'avais passé avec lui où il m'avait raconté des quelques scènes assez frappantes enfin de sa vie, notamment le fait qu'en fait voilà, bon, c'est un dans son pays, c'est un espèce de une icône, enfin tout le monde connaît sa voix par cœur, enfin il chante une chanson qui est presque un deuxième hymne en Guinée-Bissau, Sol Mayor para Comandante, donc c'est le sol majeur pour le commandant, qui était Amilcar Cabral, c'est assez bouleversant parce qu'à Montreuil il vit dans un foyer de travailleurs migrants.
Il a arrêté la musique, il a arrêté le chant.
Parce que pendant très longtemps, il n'avait pas de papier, donc il ne pouvait pas avoir de contrat. Et il a toujours sa voix magnifique. Donc on se connaissait un peu avant que le livre paraisse. Et il a accueilli avec beaucoup de générosité le livre, les quelques fantaisies que je prenais aussi parfois avec l'histoire. Donc on s'est trouvé un peu... Ben maintenant, on est très amis, quoi, voilà, on s'est trouvé liés ensuite. Et c'est ben, Olivier Chaudançon, justement, à la Maison de la Poésie, qui a eu l'idée de d'une lecture musicale autour du livre. Et Malan a accepté de venir chanter. Donc il sera là dimanche. On va reprendre ce spectacle qui avait été créé à la Maison de la Poésie, et donc il y a des lectures du livre, et Malan, accompagné par Pukuruch, qui est un guitariste bissau-guinéen de la même époque, qui lui était de l'orchestre concurrent, rival, les grands ennemis du Mama Jumbo, mais il connaît bien sûr par cœur tout le répertoire du Mama Jumbo aussi.
Donc ce sera un moment d'émotion, et en même temps, vous vous rendez compte, on a des personnages, c'est ce que disait Olivier hier sur cette même antenne, des personnages de romans qui surgissent. Vous imaginez qu'on croise un Julien Sorel, par exemple, une Emma Bovary, enfin, ou Angelo Pardi, tiens, Jacques, ce serait quelque chose d'incroyable, quoi. Et donc là, tout d'un coup, on a des personnages qu'on peut retrouver dans votre roman.
Ça, c'est une tendance du roman contemporain. Moi, je me suis retrouvé par hasard dans deux romans comme ça.
C'est bien.
Enfin, il y en a un, on m'avait demandé l'autorisation, mais dans le dernier livre de Métine Arditi, il a donné mon nom à un de ses personnages. Je lui ai dit, mais tu es à lapsus. Non, c'était juste pour te faire un petit coucou comme ça.
Et ça, c'est dimanche soir à 21h, il paraît, c'est ça, c'est une lecture musicale.
Il y a des choses qui se passent comme ça en littérature. En tout cas, nous on y sera, et puis on aura évidemment énormément de curiosité, de gourmandise à croiser ces musiciens et à les entendre derrière vos lectures et à côté de vos lectures, Sylvain. Merci à tous les deux.
Merci
aussi Pierre, bienvenue à Manosque. Donc on aura l'occasion de se voir pendant ces trois très jolis mois que je vous souhaite ici même dans le pays de Giono. Et puis je vous propose d'écouter tout simplement deux personnes qui sont essentielles pour les correspondances et pour les gens qui aiment la littérature à Manosque. Il s'agit de Nathanaël Coriol et Sylvie Peson. Elles sont bibliothécaires, elles travaillent à la médiathèque, elles travaillent aussi au comité de lecture. Vous les connaissez bien sûr, Sylvain, vous allez les connaître, Pierre. Elles animent aussi régulièrement une émission sur notre antenne avec leurs amis du comité de lecture, les lecteurs sous les toits. Clin d'œil à Jean Giono, évidemment, après être sur les toits pour un chef-d'œuvre de la littérature du 20e, on a un chef-d'œuvre de la radio du 21e sous les toits.
Et Nathanaël Coriol va travailler avec nous sur le fonds de livres anciens que l'Association des Amis de Jean Giono achète, donc la bibliothèque littéraire de Giono. Elle va être en charge de la partie technique de la conservation.
C'est une spécialiste effectivement des livres historiques, donc c'est une bonne chose. Je vous propose de les écouter parce que figurez-vous que toutes les éditions des correspondances à 11h, pendant que Fréquence Mistral fait son émission un petit peu particulière et que je fais le malin ici devant les micros, eh bien elles font aussi leurs émissions et leurs rencontres avec d'autres rencontres à 15h, 16h et c'est sur la place d'Herbès à Manosque, donc elles peuvent jamais venir pendant mes émissions. Je vis la même frustration, évidemment. Je peux jamais aller les voir, donc c'est avec grand plaisir que je vous propose d'écouter Nathanaël Coriol et Sylvie Peson.
Ce sont toutes les deux des lectrices averties et elles travaillent à la médiathèque d'Herbès à Manosque dans le cadre des correspondances. Depuis déjà plusieurs années, elles animent les apéritifs littéraires. Nathanaël Coriol et Sylvie Peson, vous êtes en notre compagnie. Sylvie, qu'est-ce que ça vous apporte, les correspondances à vous-même ?
Les correspondances, c'est une rencontre avec des auteurs qu'on a lus tout au long de l'année, et c'est le plaisir de pouvoir dialoguer avec ces auteurs, de les rencontrer en profondeur, parce que pour les apéros littéraires, nous préparons des lectures, donc qu'on fait une grosse analyse de texte, on fait une grande explication de texte pour essayer de sortir du texte ce qui est le meilleur. Et c'est une façon de beaucoup travailler et de rencontrer les auteurs en profondeur.
Nathanaël, votre sentiment ?
Si on peut légèrement donner notre avis aux personnes, donc Olivier et Evelyne, ils nous dégotent souvent en fait des livres et des romans que on n'aurait peut-être pas lus s'ils nous avaient pas proposé. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va vers l'inconnu, on va vers des auteurs que, sans aucun doute, tel le premier roman de Miguel Bonnefoy ou tel Philippe Jaénada avec La Petite Femelle, donc deux auteurs qu'on reçoit cette année, qu'on aurait sans doute, on serait sans doute passé à ce côté.
Lorsque vous faites vos interventions, là, j'ai eu l'occasion d'en suivre plusieurs, c'est pas tout à fait la même chose et la même approche que lorsque ce sont des journalistes littéraires qui font des interviews. Vous avez une façon particulière de faire parler les auteurs.
En fait, nous ne sommes pas effectivement des journalistes, nous sommes des bibliothécaires et surtout nous sommes des lectrices. Les gens n'ont pas besoin de découvrir nous, les gens veulent découvrir les auteurs. Nous, on essaye de tendre la perche à l'auteur pour le faire parler.
Vous y arrivez souvent et parfois c'est difficile aussi parce que c'est pas trop votre métier et puis vous êtes contrainte par le temps, il y a une heure, pas plus.
Nos lecteurs du comité de lecture lisent pendant une demi-heure à peu près les textes des auteurs qui sont là. Et après, avec Nathanaël, nous interviewons pendant effectivement trois quarts d'heure, une heure. Et en général, ils sont deux. Et l'exercice est périlleux parce que souvent, les deux auteurs que nous recevons en même temps n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Les livres sont parfois complètement différents. Donc l'exercice consiste à essayer quand même de donner la parole à chacun d'entre eux de façon égale.
Nathanaël, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand il y a des lectures qui sont faites et que vous avez les écrivains en face? Vous les regardez, vous scrutez leur réaction?
Oui, moi j'avoue que je les regarde et j'aime beaucoup voir les émotions se lire sur leur visage. Et c'est vrai que c'est un moment intense parce que ils ressentent pleinement leur texte. Certains même, en fait, connaissent leur texte par cœur. Et on peut lire sur leurs lèvres, en même temps que le lecteur lit, ils récitent leur texte. Donc c'est vrai que c'est un moment assez poignant, assez émouvant. Et c'est rare, en fait, qu'ils soient déçus. Souvent, ils sont très touchés.
En plus, ces événements se passent en public. Ça aussi, ça doit être une difficulté ou en tout cas une approche différente et particulière pour vous.
Oui, c'est vrai que quand nous montons sur la scène avec Sylvie et avec les deux auteurs, ce qui est le plus gratifiant, c'est quand tout d'un coup, alors que nos deux auteurs n'ont rien à voir, que leurs romans n'ont rien à voir, et qu'il y a tout d'un coup une alchimie qui se fait entre les auteurs. Bon, avec Sylvie, on se connaît assez bien, donc d'un seul regard, on sait où on en est, on sait quelles questions on veut poser, et que tout d'un coup, le public est avec nous. Donc on est tous ensemble, et le public rit aux interventions des auteurs, il est avec nous dans nos questions, c'est vraiment des moments magiques. Alors, ça marche bien sûr pas à tous les coups, mais quand ça se passe, c'est vraiment un moment merveilleux.
Vous avez des souvenirs justement des éditions précédentes, de ces moments merveilleux, de ces instants magiques, Sylvie ?
Ah oui, il y a eu des échanges très très drôles une année entre Robert McLeod Wilson et je ne sais plus quel était l'autre auteur, où vraiment, mais le public était mort de rire. Nous on n'avait plus rien à faire, nous. Hein. On les laissait dialoguer tous les deux, et c'était un moment assez génial, mais je ne me souviens plus quel était le deuxième auteur.
Une fois, on a eu deux auteurs qui avaient deux conceptions de la littérature et qui nous ont fait un débat littéraire. C'était Sabri Loata et Mathias Hénard, qui va revenir d'ailleurs cette année, alors pas pour nos apéros, mais pour son livre dans un autre cadre, dans une autre rencontre littéraire, pour son livre Boussole. Et là, c'est vrai que ça allait au-delà de leurs livres, puisque les livres n'étaient pas vraiment en rapport, même si on avait pu trouver des similitudes et des points d'ancrage. Mais surtout, c'était devenu un débat littéraire sur la conception qu'ils avaient chacun de leur roman, et du roman en général.
Et cette année, alors vous avez aussi du beau linge en plateau à l'hôtel d'Herbès, avec par exemple Alain Mabankou ou Carole Martinez.
Oui, alors même, alors donc le jeudi matin, nous recevons Javier Cercas pour un superbe livre qui s'appelle L'Imposteur, qui raconte l'histoire d'un menteur professionnel, d'un type qui s'est fait passer pour un ancien déporté, pour un ancien républicain pendant la guerre d'Espagne, pour un héros de la guerre d'Espagne, et qui en fait a bâti un mensonge toute sa vie et qui a été démasqué en 2005.
Oui, et cet homme, donc, normalement parle bien français, il est catalan, son livre a été traduit. Et c'est vrai que c'est toute l'histoire de l'Espagne qui défile. On est très contente de le recevoir. D'ailleurs, on va toutes se consacrer à lui, puisque ça sera le seul auteur. Et le lendemain, nous aurons Carole Martinez, La Terre qui penche, et pour un premier roman, Miguel Bonnefoy, Le voyage d'Octavio. Alors par exemple, pour Carole Martinez, c'est la deuxième fois qu'on la reçoit, et ça faisait partie de nos rencontres avec des auteurs où on est complètement en symbiose avec cette auteure. Elle est absolument adorable et c'est une écrivain d'une qualité extraordinaire. Enfin, son écriture est sublime. D'ailleurs, je crois que c'est le coup de cœur de Sylvie.
Exactement, c'est mon coup de cœur. C'est un roman qui se passe au Moyen-Âge et qui vient un petit peu en écho au premier roman pour lequel on l'avait reçu, qui s'appelait « Du domaine des murmures ». Et ça se passe 200 ans après, il y a des références au premier roman. Et c'est une très belle écriture. On est plus dans le Moyen-Âge, après la Grande Peste. Et c'est vraiment, ouais, c'est très beau.
Alors les apéritifs littéraires que vous animez, c'est bien sûr le matin à 11h pendant les correspondances. Mais cette année, il y a aussi une innovation. C'est le dimanche matin à 11h. C'est pas la messe, non, mais c'est quelque chose de particulier.
Oui, suite encore à ces rencontres un petit peu fantastiques, un petit peu merveilleuses où l'alchimie se fait, avec un auteur qui s'appelle Goz et avec son éditeur, ce qui n'est pas si courant. La rencontre avec Goz s'était très très bien déroulée, donc Goz qui avait écrit un livre dont le titre était « Debout payé » qui racontait le quotidien des vigiles à Paris dans les grandes chaînes comme Sephora sur les Champs-Élysées. Suite à cela, on les avait invités pour un pique-nique, parce que le dimanche à midi, on fait un pique-nique où tout le monde est bienvenu. Et l'éditeur était venu et on a commencé à discuter avec lui. Et lui est venue l'idée de nous confier 4 manuscrits et de ne plus faire donc un comité de lecture, mais un comité d'édition où les lecteurs seraient chargés de lire ces manuscrits et de dire en quoi ils trouveraient que cela soit intéressant, qu'ils soient publiés ou non.
Se mettre dans la peau d'un éditeur, quoi.
Exactement, donc c'est un exercice qu'on n'a jamais fait. On sera sur scène avec ceux des lecteurs du comité de lecture qui auront lu les 4 manuscrits. Chacun expliquera, sinon ça mérite d'être édité, et évidemment pourquoi.
Je suppose qu'on ne gagne que votre gratitude, mais c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup, c'est un gros travail parce que les manuscrits, c'est des manuscrits, donc déjà c'est plus compliqué à lire, ils n'ont pas été revus, donc même au niveau de la typographie, c'est moins facile à lire, et comme ça n'a pas été revu, il y a quand même pas mal de maladresses souvent, ils gagneraient à être revus tous ces manuscrits, mais ça on en parlera le dimanche matin.
Sylvie et Nathanaël, vous avez, comme moi, je suppose, quelques frustrations pendant les correspondances de ne pas pouvoir assister à tous les entretiens, à tous les spectacles.
Oui, c'est une frustration énorme, d'autant plus qu'avec Sylvie, une fois qu'on a fini nos interviews, nos entretiens, on mange, alors parfois avec les auteurs, donc là on est vraiment enchantés, donc c'est encore un petit moment précieux, mais après on retourne travailler pour l'interview du lendemain, et du coup on ne voit rien.
Eh oui, on va quand même voir les spectacles du soir, parce que malgré tout, mais ceux de 21h, pas ceux de 22h30, c'est trop tard. Et donc ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça, c'est le principe d'un festival, et on est quand même très contentes d'en être un peu les actrices.
Sylvie Peuzon et Nathanaël Coriol, qui sont actuellement en train d'animer une rencontre, comme tous les jours pendant les correspondances sur la place d'Herbès à Manosque. Nos écrivains du 21e siècle nous ont quittés, et Jacques Meny est resté avec nous, le président de l'association des Amis de Jean Giono. On a parlé tout à l'heure de cette vente aux enchères, j'aurai l'occasion d'en parler avec Philippe Artière aussi prochainement, Jacques. Mais le gros morceau aussi de la présence de Giono pendant les correspondances, c'est tout simplement que des lettres de Giono vont être publiées très prochainement.
Oui, d'ailleurs, ça va être un bel automne épistolaire pour Giono, puisque d'un côté, chez Gallimard sort dans quelques jours, que je vais présenter demain avec Alban Cerisier, qui qui est mon éditeur chez Gallimard et le secrétaire général de la maison Gallimard, je vais présenter les lettres à la NRF, donc toute la correspondance entre Giono, la maison et la famille Gallimard, et qui couvre la totalité de la carrière de Giono, 1928-1970. Donc on a vraiment là, avec des creux certaines années, mais on a vraiment là quand même un panorama de toute la vie littéraire de Giono. Ça, c'est la première chose. Et l'autre événement qui suivra dans un mois, c'est nous, l'Association des Amis de Georges Giono, qui sortons l'intégrale des lettres que Giono a écrites à ses parents pendant la guerre de 1914-1918. Et ça va faire aussi un gros volume. Gallimard, c'est 515 pages serrées, et nous, ce sera 320 pages. Donc, on va avoir là plus de 500 pages de lettres de Giono d'ici la fin de l'année, et dans des registres différents, mais qui sont vraiment des documents passionnants.
Avec d'un côté, effectivement, le piou-piou Giono pendant les années sombres de la Première Guerre mondiale, et la manière dont il écrivait à ses parents pour les rassurer, en tout cas pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Et puis, alors, les lettres avec la NRF, la Nouvelle Revue Française, Jacques, ce sont des lettres à caractère littéraire, mais aussi à caractère économique.
La correspondance d'un écrivain avec ses éditeurs ou son éditeur principal, ça c'est d'abord une question de contrat, c'est d'abord une question de versement d'avance, de mensualité à négocier, etc., etc. Faut pas oublier que Giono a, depuis 1930 jusqu'à la fin, été mensualisé par ses éditeurs. Alors ensuite, il y avait, quand le livre marchait bien, il y avait évidemment un compte sur lequel il avait une somme. Alors parfois le compte était tellement débiteur que ça inquiétait l'éditeur. Il y a un passage en effet assez dur et drôle à la fois en 1950. Giono quand même annonce qu'il va et signe le contrat avec Gallimard pour Le Hussard sur le Toit en 1946, fin 46. Le livre ne va paraître que au fin 51. Donc pendant 5 ans l'éditeur, bon, Giono publiera d'autres livres chez Gallimard,
n'a rien vu venir.
Mais l'éditeur ne voit pas venir ce qui s'annonce comme un chef-d'œuvre et qui s'annonce peut-être comme un grand succès commercial, et ça le sera. Mais il ne voit rien venir. Et à certains moments, bon, alors je sais pas l'équivalent pour aujourd'hui, mais enfin, le compte de Giono, il avait un débit autorisé de 2 millions de francs. Et là, ça passe 2,5 millions. Alors, Gallimard lui dit, écoutez, je suis très très embêté, on a un conseil d'administration, il faut quand même qu'on leur explique pourquoi on fait ça pour vous. Vous êtes le seul. C'est peut-être vrai d'ailleurs, la maison Gallimard a été financièrement avec Giono d'un soutien constant, y compris pendant la période de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, où ils n'ont jamais cessé de lui verser de l'argent, même si c'est une période où quasiment il n'a pas beaucoup publié. Il y a eu la traduction de Moby Dick qui a été un des grands succès de la maison Gallimard pendant la guerre, mais bon, c'était pas vraiment des grands succès à côté de ça. Et il a peu publié. Donc, ils l'ont toujours soutenu. Et là, bon, Giono, alors, a une méthode extrêmement amusante et répétitive. C'est que dès qu'il est en difficulté avec un éditeur, il joue Cosette. Les Misérables, le mélodrame, et alors il leur dit, oh ben écoutez, je suis désolé de vous mettre dans tous ces ennuis. Bon, alors, voilà ce qu'on va faire. Hein. Bon, je vais quand même finir mon livre, Le Hussard sur le Toit. Bon, parce que, bon, il faut quand même que je vous le donne. Mais après, j'arrête d'écrire, et puis je vous rembourserai tout ce que je vous dois. Je reprendrai un petit travail dans un bureau. Je vendrai un petit bout de terrain que j'hypothéquerai ma maison. Enfin, bref. Et alors là, Gallimard répond catastrophé, mais enfin, mais non, c'est pas du tout ce qu'on voulait, ce que vous voulez dire. On veut surtout que vous ayez la paix pour faire votre œuvre. Et là, bon, il a gagné, quoi. Je veux dire, bon, ils vont négocier, il aura pendant quelques mois un peu moins d'argent chaque mois. Et puis, juste 6 mois plus tard, quand il leur envoie le manuscrit, enfin, et définitif du Cerf sur le Toit, il a ces mots extraordinaires, ce qui prouve sa lucidité aussi sur ce qu'il était et ce qu'il faisait. Il dit, vous savez, je crois que sans gros efforts de votre part, sous-entendu de publicité haute, ce sera un grand succès. Car, ajoute-t-il, c'est une histoire. Hein? raconter des histoires. Et il ne s'était pas trompé, puisque Le Hussard sur le Toit fait partie des 50 meilleures ventes de toute l'histoire de la maison Gallimard. Donc, et après Le Hussard sur le Toit, les choses seront très, très simples pour lui financièrement avec la maison. Donc il est beaucoup question, mais c'est un négociateur d'une habileté rare.
Jacques, on peut quand même rappeler que son premier métier a été
la banque.
La banque.
Oui, oui.
Donc
oui.
Effectivement, il a vu des choses en banque et
On nous a souvent raconté la légende d'un Giono qui s'intéressait pas aux questions matérielles, qui s'intéressait pas à l'argent. C'est faux, c'est complètement faux. Hein. Je veux dire, il essaye sans arrêt de jouer double jeu.
Il fait vivre sa famille.
Il fait vivre sa famille. Il fait vivre beaucoup de gens avec son œuvre. Donc il est quand même connu pour être le seul écrivain à avoir signé en 1930 le même contrat quasiment, tout en disant que c'était pas vrai, qu'il pensait pas avoir signé le même contrat, mais le même contrat avec les deux plus grands éditeurs parisiens, qui étaient évidemment concurrents, voire un peu ennemis, Grasset et Gallimard.
Et ça, c'est une prouesse quand même, Jacques, parce qu'effectivement, on a les deux.
Ça a failli nous coûter cher quand même, parce que si ces deux grands éditeurs n'avaient pas eu, et ça se passerait plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aurait procès, il y aurait les juristes, il y aurait tout ça. Mais si ces deux grandes personnalités, qui étaient Gaston Gallimard et Bernard Grasset, n'avaient pas eu cette intuition qu'ils étaient en face des très très grands écrivains et que c'était pas sur le coup que ça allait être intéressant, mais sur la longue durée, sur l'avenir, etc., ils l'auraient, comme Giono s'y attendait, écrasé et jeté. Là, ils se sont mis d'accord entre eux pour lui proposer un accord tripartite, donc Giono, Grasset, Gallimard, pour se partager son œuvre. Chacun ayant d'ailleurs derrière la tête de le récupérer au bout des 5 ans de cet accord en exclusivité. Et Giono va à nouveau jouer double jeu, signant avec l'un puis avec l'autre, mais négociant en secret avec Gallimard à la hausse, ce qui va laisser Grasset un peu sur le côté. Et de toute façon, bon, il a eu des rapports très conflictuels avec la maison Grasset en général, et beaucoup plus apaisant et apaisé avec la maison Gallimard. Et finalement, après-guerre, il va encore essayer de jouer ce double jeu, parce que, bon, selon un calcul extrêmement simple, que avoir deux éditeurs, ça peut vous rapporter deux fois plus que d'en avoir un seul. Et jusqu'au jour où Gallimard va lui dire « Stop !» C'est fini de là, c'est moi votre éditeur, et à ce moment-là, Giono va dire, bon, mais si vous êtes mon éditeur exclusif, d'accord, je vous donne tous les droits sur mon œuvre, vous allez gérer mon œuvre, mais alors on négocie le contrat. Et vous m'augmentez ma mensualité, et vous me donnez tous les droits cinéma, et il va obtenir tout ça. Donc, c'est une partie de la correspondance. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, bon, parfois, beaucoup moins que dans d'autres, peut-être, correspondances. C'est pas une correspondance vraiment littéraire, hein. Il ne s'exprime pas sur la littérature en général, des grandes idées. Il fait l'éloge de quelques auteurs, c'est assez rare, en particulier Zazie dans le métro de Raymond Queneau, qu'il connaît bien puisqu'ils sont ensemble à l'Académie Goncourt à cette époque-là, qui vraiment l'enthousiasme, qui considère comme vraiment un chef-d'œuvre absolument extraordinaire, et Queneau comme un immense écrivain, en quoi il a raison. Il parle de Chester Himes, il parle de la série noire, il parle d'un certain nombre de choses, mais on apprend aussi beaucoup de choses sur la façon dont il travaille et dans la façon dont ses œuvres se construisent, ce qui va paraître, ce qu'il a en chantier, ce qu'il a comme idée, des idées qui parfois évidemment n'aboutissent pas. Et puis il y a toute cette relation qui va passer de l'amitié professionnelle à l'amitié vraiment, puis à l'affection familiale. À la fin de sa vie, Giono est en relation surtout avec Claude Gallimard, donc le père d'Antoine Gallimard, l'actuel patron de la maison. C'est une relation vraiment très affectueuse, très 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 forte. Il a eu aussi une relation extrêmement forte avec Michel Gallimard, qui est mort dans l'accident qui conduisait la voiture et qui lui a coûté la vie et la vie d'Albert Camus en 1960. Et Michel, qui est venu souvent ici à Manosque voir Giono, comme beaucoup de jeunes gens qui l'a comme ça adopté, comme des fils, comme Pierre Berger, comme Bernard Buffet, comme Pierre Magnan avant, comme Jean Carrière, je pense que Michel Gallimard a eu cette relation un peu père-fils, et c'était une relation intellectuelle intéressante. C'est grâce à des conversations qu'ils ont eues dans la bibliothèque du Paraïs que certains textes anciens ou certaines traductions de textes anciens sont entrés dans la Pléiade. Le Francion de Sorel, et c'est Giono qui a suggéré de le mettre dans la Pléiade. Et le responsable de l'édition a accepté cette idée. C'est aussi Giono qui a fait entrer Machiavel dans la Pléiade. En disant à Claude Gallimard, qui était venu le voir à l'allée, dans le Trièvre, où il était en vacances, voilà, j'ai découvert ça des lettres de Machiavel inédites, il faut faire un Pléiade autour de ça. Donc, on voit aussi comment un éditeur, à certains moments, et Dieu sait si Giono était quelqu'un d'extrêmement indépendant, qui ne s'est jamais laissé dicter quoi que ce soit, même s'il a tenu compte des avis à ses débuts de ses amis Lucien Jacques et Maxime Girieux, mais on voit comment Gaston Gallimard, qui prend rarement la plume pour lui écrire, il s'écrive indirectement. C'est-à-dire que Giono demande des nouvelles de Gaston ou en fait donner en s'adressant à son fils ou à son neveu, et Gaston dit « je ne veux surtout pas vous déranger, mais bon, il a des nouvelles à partir surtout de 1957, où Giono commence à être assez malade, hein, à souffrir quand même beaucoup, par sa fille Aline, que Gallimard va engager. Donc Aline Giono a travaillé chez Gallimard de 1957 à sa mort en 1984, et donc elle fait le lien. Donc là, on a moins de lettres aussi. Oh, il y a un aspect aussi que j'aime beaucoup dans cette correspondance, c'est quand, à partir du moment où il est à l'Académie Goncourt, on n'a pas pour toutes les années, mais pour un certain nombre d'années, on a les comptes rendus quasiment des délibérations du prix Goncourt fait par Giono, qui est un peu l'espion de Gallimard dans le jury, et qui d'ailleurs vote quasiment systématiquement pour un auteur Gallimard.
Ils ne sont pas tenus à une clause secrète.
Donc, j'ai même retrouvé dans les archives des bons de la main de Giono, les papiers où il y a tous les candidats élus à chaque tour, et donc voilà. Non, mais Giono rend compte, et puis alors il est furieux quand on donne le prix Goncourt à un livre de chez Grasset, en l'occurrence c'est Oubliez Palerme d'Edmond Charleroux, et il dit mais ça c'est des manœuvres, et puis Mauriac est à la manœuvre derrière pour Grasset, mais c'est pas pour qu'elle ait le prix, non, c'est parce que on veut vous faire du mal à vous Gallimard. En réalité on s'aperçoit que pendant la période où Giono était au jury Goncourt, c'est-à-dire pendant 14 ans, Gallimard a eu le prix Goncourt plus de la moitié des fois. Je pense que parfois avec des évidences comme Les Racines du Ciel ou bon La Loi de Roger Vaillant, je dis ces deux titres parce que Giono les a défendus et aimés et que c'est des titres qui sont restés en mémoire. Mais parfois il y a eu des prix Goncourt Gallimard dans cette période qui sont des livres oubliés aussi. Hein, voilà.
Jacques, est-ce que selon vous Giono a joué comme d'un argument marketing du fait que ce soit l'écrivain de Manosque qui vit reclus dans sa campagne,
non, non,
etc.
Non, pas du tout. À ses tout débuts, il a certainement saisi l'opportunité qu'il y avait à non pas se présenter comme un écrivain régional, mais en tout cas à ne pas combattre cette idée, qu'il va combattre avec vigueur à partir de la fin des années 30. Parce que c'est vrai que ça a probablement contribué au succès de son démarrage. Hein. Parce qu'il y avait une mode à l'époque, une vogue du roman rural, régional, paysan, etc. Et que ça l'a porté, ça. Mais après, il a combattu ça. Non, ce qui fait aussi qu'on a une correspondance assez riche, c'est que à l'époque, il n'y avait pas le fax, il n'y avait pas, bien sûr, les mails, il n'était pas quelqu'un qui téléphonait beaucoup et qui aimait ça. Donc, il écrivait ses lettres à ses éditeurs, un peu comme on envoie un mail aujourd'hui. Et donc, et les éditeurs lui répondaient évidemment de la même manière. Donc, on a cet échange de travail, hein, qui est souvent presque quotidien à certaines périodes. Donc, on voit comment on vit. C'est ça qui est merveilleux. J'adore éditer de la correspondance parce que on vit. Moi, je viens de passer, par exemple, 3 ans dans les tranchées, là, en éditant les lettres de guerre de Giono. Parce que vraiment, en allant chercher par Internet, etc., sur les cartes, etc., tous les endroits où ça se passe, ce qui s'est passé, quels étaient les mouvements de tel régiment à tel endroit, etc. Là, j'ai passé 4 ans. Et là, j'ai passé aussi, parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur cette édition pour Gallimard, à mes moments perdus, qui sont rares, comme vous savez. donc, j'ai vraiment vécu de cette vie avec un personnage qui vieillit, qui devient célèbre, et qui arrive plus à écrire ce qu'il veut écrire à partir des années 60, et là on le voit dans les lettres que ce qui lui importe c'est
toute une série de romans qu'il n'écrira pas et qui aurait été ce qu'il appelle ironiquement dans une des dernières lettres sa troisième manière, qui n'a pas vu le jour et qui me passionne justement en ce moment. Donc on participe de tout ça, c'est la vie familiale, c'est la vie économique d'un écrivain, c'est la vie économique d'un éditeur et du plus grand éditeur, hein, c'est la création en acte, c'est la réception des œuvres. Genoux qui disait à la fin de sa vie, me voir un livre publié ne m'intéresse pas. Quand on voit les lettres d'engueulade, car il faut appeler ça, qu'il écrit à ses éditeurs parce qu'il n'a pas vu de publicité pour son livre dans tel journal, je veux dire qu'il lit les journaux professionnels.
Donc, et qu'il s'en inquiète.
Et qu'il s'en inquiète. Et ça nous donne un portrait de Genoux très très loin de l'image justement de l'ermite de Manos Lera. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment dans, et puis du réseau de, il est sollicité par tous les éditeurs de France et de Navarre. Donc évidemment, à certains moments, il donne les traductions, etc. Il donne des accords sans demander à Gallimard, et il se fait en guirlandais. Après, bon, il demande l'accord de Gallimard, qui lui dit évidemment oui. Donc il y a tous ces jeux. Il y a un jeu entre l'éditeur et l'écrivain qui là se joue sur la longue durée. Hein, c'est pas. On voit aujourd'hui beaucoup les écrivains changer d'éditeur en fonction du tel succès ou de la surenchère que va faire telle maison pour avoir cet auteur qui marche bien, etc. Donc on a là sur la longue durée la relation quand même avec le grand éditeur français d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. C'est passionnant. C'est passionnant. J'espère que ça pourra intéresser au-delà simplement du chercheur, de l'amateur de littérature, du spécialiste ou du bon connaisseur de Genoux, parce qu'évidemment, parfois, c'est des discussions, en effet, surtout financières, mais je pense qu'on y découvre Genoux et sa personnalité de façon assez, assez singulière, nouvelle et originale. Voilà.
En attendant la publication qui aura lieu donc dans une semaine ou deux.
Oui, je sais, dans l'office d'octobre en librairie, donc je pense que ça devrait être en librairie. J'espère qu'on en aura quelques premiers exemplaires demain à Manosque, mais en tout cas, ce sera en librairie début octobre.
Et donc l'événement, c'est demain avec Alban Cerisier, qui est en charge des fonds patrimoniaux de Gallimard. Oui. Les lettres à la NRF de 1928-1970 de Jean Genoux, avec vous-même, Jacques. Et puis on va aussi rassurer, Olivier Chaudançon nous a déjà rassuré, mais on va rassurer aussi nos auditeurs. La vente aux enchères, évidemment, est fictive samedi, au Paraïs. Rien ne sera vendu, rien ne sera donné, et c'est simplement passé un bon moment et un moment de réflexion sur cette vie.
Et un moment ludique aussi.
Un moment ludique avec beaucoup d'écrivains qui seront là. Je pense à Mathieu Riboulet, à Lise Zéniter, enfin plein d'autres qui seront là, et ce sera un grand moment. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour une autre émission en direct des correspondances avec un très beau plateau. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Eddy Kaddour nous fait l'amitié d'être là pour parler des Prépondérants, qui est un roman magnifique qui est sorti chez Gallimard, justement.
On lit pour le Goncourt, oui.
En liste pour le Goncourt.
Et le prix Genoux aussi.
Également.
Sélectionné pour le prix Genoux aussi.
Nous entendrons Philippe Artière parler du trésor de Genoux, l'événement dont nous parlions. Et puis, j'aurai le plaisir de recevoir Barbara Carlotti pour parler de son laboratoire onirique et une belle brochette de personnalités. Ce sont nos amis qui proposent les siestes littéraires, en l'occurrence autour de Bastien Lallemand, Camélia Jordana, Albin Simone, Maëva Lebert, mais aussi Gwenaël Lebris et Théo Acola. Enfin bref, il y aura beaucoup de monde demain sur notre plateau. Restez bien à l'écoute de Fréquence Mistral. Et puis tout ça se retrouve sur notre site internet fréquencemistral.com. Merci beaucoup Emeline pour la régie. Dans un instant, eh bien, les infos de RFI, Radio France Internationale. Bon festival des correspondances à tous.
Merci François, de même.